Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La semaine dernière, le gouvernement congolais a, par le biais du ministère de la Culture et des Arts, lancé officiellement la campagne pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise, style majeur de la musique africaine au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. D'après la ministre des tutelles, c'est l'occasion pour les Congolais de s'approprier du projet dans le but de faire accepter notre identité et richesse culturelle en Afrique et pourquoi pas dans les mondes. Vous pouvez participer à cette émission, ces débats, bien entendu, en composant les 0 81 890 63 30 ou encore les 0 81 890 49 69 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Jocelyne Mukendi assure la réalisation de ce programme mis en onde par Jean-Claude Siala Mwana Makengo et ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose aujourd'hui ces débats sur l'inscription de la rumba congolaise en tant que patrimoine mondial. Alors nous avons en ligne Madame la Ministre Katumba Fura, alors qui est avec nous. Madame la Ministre, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors depuis la semaine dernière, le gouvernement congolais s'est lancé dans cette campagne de l'inscription de la rumba en tant que patrimoine mondial. Alors quel est l'objectif poursuivi par le gouvernement congolais?
Bien, merci pour cette opportunité. Nous avons pris l'option de lancer la campagne parce que la procédure avait déjà commencé il y a bientôt 2 ans et les étapes évoluent très bien. La campagne a été lancée et poursuit comme objectif la sensibilisation de la population d'abord congolaise, du continent africain, mais aussi du monde entier sur la paternité de la rumba par la République démocratique du Congo et la République sœur des Congo-Brazza. Nous voulons faire connaître au monde que la rumba nous appartenant, c'est toute une richesse, c'est notre culture et on doit le savoir ainsi. En 2016, le Cuba avait inscrit la rumba comme leur patrimoine à l'UNESCO. Mais avec le temps, nous avons trouvé que notre histoire avait été falsifiée parce que la rumba était partie de notre pays. Lorsqu'il y avait eu la traite négrière, les esclaves qui sont partis vers les autres horizons sont partis avec la rumba. Quand ils se rappelaient de leurs origines, de leurs leur milieu d'où ils étaient venus, ils essayaient de danser pour essayer de vivre, pour essayer de se réjouir malgré les souffrances. Et on a compris que à partir de cette danse des nombrils, on a amené une civilisation. Et ainsi, nous voulons faire connaître au monde que bien que cette paternité nous appartient, aujourd'hui et la rumba a traversé les frontières, elle peut être inscrite au patrimoine immatériel universel parce que le monde entier a désormais la chance aient le droit de l'exhiber partout, mais en respectant tout cette rumba bénin. Et cette rumba a des retombées, et ces retombées sont le fait que notre culture a des extensions à travers le monde. C'est pourquoi nous devons sensibiliser, nous devons solliciter l'adhésion de toute la population à soutenir cette grande campagne, mais aussi savoir que les retombées touchent les aspects de la coopération, ça touche les aspects financiers, les échanges avec les artistes congolais et les artistes d'ailleurs constituent déjà un gain pour nous, parce que le mouvement des artistes fera entrer des devises dans notre pays, et c'est pourquoi la culture contribue au développement, non seulement du pays, mais au développement du monde. Et on ne peut pas oublier aujourd'hui que le président de la République a le mandat au niveau de l'Union africaine, et ce mandat, il l'a placé sous le thème de la culture, l'art et le patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et moi, je me dis, levier pour construire le monde que nous voulons avoir, et la rumba est l'une des œuvres que nous devons promouvoir, protéger et conserver. Voilà.
Alors, est-ce que vous vous rassurez de l'accompagnement des musiciens eux-mêmes qui sont concernés dans cette affaire d'abord ?
Nous sommes en train de nous rassurer cet accompagnement parce qu'il y a des activités de sensibilisation, de mobilisation et de renforcement des capacités des opérateurs culturels musiciens congolais par rapport à cette opportunité que nous avons lorsque la rumba sera inscrite au niveau du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous sommes en train de montrer aux opérateurs que la rumba telle que exhibée doit d'abord garder son originalité. On peut juste l'adapter, bien sûr, mais lorsque nous voulons que ça soit reconnu comme notre patrimoine, nous avons besoin que nous puissions respecter d'abord nous-mêmes l'originalité par rapport au pas, par rapport à la cadence. Et lorsque les gens devront l'adapter, ils devront d'abord respecter, parce que nous sommes jaloux. Dans la conservation, nous devons être jaloux du fait que nous devons garder cette originalité de la rumba. Et c'est comme les droits d'auteur, ça fait intervenir pratiquement l'aspect des droits d'auteur. Et donc nous devons veiller à ce que la rumba soit exécutée correctement. Et c'est pourquoi les artistes devraient être informés, parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont entrées, de nouvelles musiques et tout. Et on est en train de vouloir oublier la rumba alors qu'elle devait porter l'étendard par rapport à cette originalité et à la richesse qu'elle révèle. Et donc, les artistes sont en train d'être sensibilisés et ils sont en train de comprendre qu'ils ont intérêt de garder cette originalité. Comme les gens sous autres cieux, ils ont les originalités par rapport à leur culture et les artistes sont mobilisés, ils sont sensibilisés et c'est la campagne que nous sommes en train de mener d'abord avec les artistes, musiciens et avec tous les autres opérateurs culturels qui, en faisant la rumba comme danse, peuvent même faire des sculptures pour représenter les gestes de la rumba. Et donc, c'est quelque chose qui importe et nous sommes en train de tenir compte du fait que les opérateurs culturels doivent s'en approprier avant tout le monde.
Alors, le yoga, par exemple, pour les Japonais, fait rentrer beaucoup d'argent au niveau du Japon. Est-ce que la rumba rapportera également quelque chose pour la RDC ?
Bien évidemment, dans le cadre de la protection de la rumba, c'est vraiment un événement de portée internationale et régionale. Et lorsque la rumba sera exhibée, automatiquement et obligatoirement, il doit y avoir des redevances. Et donc, quand il y a des redevances, le Congo doit se retrouver. Je parlais de l'aspect des échanges, les mouvements des artistes. Quand les artistes viennent, quand les artistes partent, quand les artistes essaient un peu d'exhiber, il y a ce mouvement qui fait entrer de dollars, ça fait entrer de l'argent et ça doit rappeler quand même le caisse de l'État et ça doit leur apporter aussi quelque chose. Parce que lorsqu'ils sont en train de le faire, ils vont plus continuer à être comme des artistes malheureux. Ils vont constituer leur label et ils vont aussi accéder à l'amélioration de leurs conditions. Donc, comme les autres vivent de leur patrimoine, vivent de leur culture, les artistes congolais, avec la campagne que nous faisons, avec l'appropriation qu'ils vont faire, ils vont vivre de ceci. Et le pays va tirer aussi de retombées, de dividendes et la culture va reprendre sa place. Et nous avons foi avec l'inscription au niveau du patrimoine immatériel de l'UNESCO, la reconnaissance de cette rumba comme une culture congolaise, c'est déjà une bonne et une importante opportunité. Et nous devons d'abord reconnaître cela que le pays, notre culture va traverser les frontières, notre culture va
prendre sa valeur parce que nous voulons que cette culture soit connue. Donc le pays se retrouvera, les artistes vont se retrouver et les Congolais vont vivre avec ces principes et c'est merveilleux.
Madame Catherine Katungu-Fura, vous êtes ministre. Alors qu'est-ce qui justifie le retard accusé dans l'inscription de la rumba sur le patrimoine mondial, idée déjà germée à l'époque avec le ministre Banza Mukalaipe à son âme?
Oui, l'inscription de la rumba au niveau du patrimoine immatériel de l'UNESCO a toute une procédure. Donc il y a un processus et nous devrions constituer notre dossier. Dans la constitution du dossier, il y avait beaucoup d'éléments que nous devrions mettre en place. Et comme nous sommes en train de faire des démarches avec notre voisin, le Congo-Brazza, il y avait des éléments que nous devrions mettre ensemble et nous étions sous l'accompagnement de l'UNESCO. Il y a le bureau régional au niveau ici de Kinshasa qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus. Nous devrions constituer le dossier. On devait réunir les éléments et on devait chercher à identifier et à répertorier les œuvres de la rumba qui avait été déjà reconnue à partir des grands Calais, des grands artistes congolais. Et lorsque nous avons fini cette étape, il a fallu que nous puissions introduire les dossiers, les déposer, et la procédure a commencé à ce niveau-là, et les étapes se suivent très bien. Nous sommes maintenant à l'étape de la campagne, parce que récemment, il y a quelques jours, j'ai été en Rome avec la directrice générale de l'UNESCO, qui a reconnu le travail qui est en train d'être fait, et qui nous a garanti d'ailleurs, qui nous a rassuré. C'est ça la bonne nouvelle que nous sommes en train de vulgariser, de donner aux Congolais d'abord, aux Africains et au monde, que il y a un bon contact et il y a une très bonne évolution et nous avons la fierté de reconnaître que l'UNESCO nous a donné cette assurance que déjà avant la fin de cette année, la rumba sera inscrite au patrimoine universel immatériel de l'UNESCO.
Alors pour le préalable, il faut du lobbying sur le plan extérieur. Est-ce que vous y avez pensé? Aviez-vous également des moyens pour y arriver, les moyens de votre politique?
Oui, mon cher ami, nous avons fait du lobbying et c'est pourquoi ça prend d'ailleurs beaucoup de temps. Il a fallu qu'on puisse contacter des grands historiens, qu'on contacte les grands sociologues, les personnes qui ont parlé de l'histoire avec l'histoire de la route des esclaves. Nous avons eu beaucoup d'informations et il y a beaucoup de soutien que nous avons reçu de la part des autres Africains, mais aussi de la part des Cubains, parce que les Congolais qui sont venus de notre pays sont allés au Cuba vers les années 1950. Le Grand Calais a trouvé que la rumba c'était déjà une propriété, une appropriation des Cubains. Et lorsqu'il est revenu, il a dit que nous devons essayer de revenir à nous-mêmes et à reprendre nos histoires en main. Et donc le plaidoyer et le lobby a commencé. Et c'est grâce d'ailleurs à ce plaidoyer que le Congo s'est senti soutenu et la procédure et les dossiers sont en train d'évoluer correctement. Donc il y a les Nations Unies qui sont en train de soutenir, mais aussi il y a des grandes organisations culturelles internationales et des opérateurs eux-mêmes, les opérateurs, les mécènes et les sponsors qui connaissent le travail qui se fait au niveau du pays, qui sont en train de soutenir et qui sont en train d'encourager les Congolais d'abord à s'approprier ceci et d'encourager les gouvernements à poursuivre avec les piliers de l'industrie culturelle avec l'inscription de la rumba. Donc le plaidoyer est là et lorsque nous voulons faire cette campagne, c'est pour que même la population du monde et du continent, voire même de notre pays, puisse s'approprier et connaître qu'est-ce que nous pouvons tirer de ceci et être fiers de ce prestige d'avoir une culture qui est pratiquement une culture universelle.
Madame Catherine Katungu-Fura, nous vous gardons en ligne, si vous le permettez. On va écouter les auditeurs dans cet échange citoyen qui pourrait apporter quelques idées sur les préalables pour la réussite de ces projets et d'autres, par contre, qui émettront également quelques doutes sur cette question et ça nous donnerait la matière pour savoir réellement quels sont les défis à relever. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Voilà, nous vous recevons, Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Christian.
Bonjour Jerry, bonjour à l'invité.
Alors, selon vous, quels sont les préalables pour la réussite de ces projets?
Merci Gérard Lungambo pour la parole accordée. Gérard, je solliciterai votre indulgence. Vous savez, Radio Capi est suivi jusqu'aux extrémités de la Terre. Alors le mardi, lorsque nous avions intervenu sur, la réflexion que nous étions en train de mener, afin de d'aboutir sur une loi visant à revoir les salaires du chef de l'État à 80 000 dollars, le millier d'auditeurs ou internautes de Radio Capi nous ont écrit pour nous dire comment est-ce que nous pouvons renvoyer les fonctionnaires à un salaire de misère. Or, l'idée pour nous, c'est justement de faire comprendre aux uns aux autres que nous luttons beaucoup plus pour qu'il y ait un salaire plancher et un salaire plafond de tous ceux qui sont payés par les présents publics. Et donc, le chef de l'État aura 80 000 dollars. L'huissier d'administration publique aura...
Alors, Christian, vous êtes en dehors du sujet, Christian.
$150 chez Lungambo.
C'est juste une mise au point. Mais vous avez déjà perdu une minute.
Et mettre pour faire comprendre aux auditeurs...
Alors, soyez précis et concis, sinon je vais vous couper. Donc, soyez concis et précis parce que vous avez déjà bouffé une minute.
Oui, là je finis avec la mise au point. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que le préalable sont les gens Gérard Lungambo. Il faudrait d'abord commencer par revoir cette question ou encore respecter la question liée aux droits d'auteur, aux droits voisins. Vous savez, aujourd'hui, les musiciens sont clochardisés tout simplement parce que ces droits ne sont pas respectés. Il y a, c'est vrai, sur le plan des textes, ils sont protégés, mais dans la pratique, les kilomètres restent encore vraiment énormes. Donc, il faudrait vraiment déjà penser par rapport à ça. Mais au-delà de ça, il y a encore cet aspect lié aux infrastructures musicales. Vous n'êtes pas sans savoir que le Palais du Peuple, qui l'autre fois aidait les musiciens à de pouvoir s'exprimer leurs talents, mais aujourd'hui, le Palais du Peuple, c'est pratiquement le siège du Parlement. Et donc, les musiciens n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer leurs talents. Et donc, il faudrait également penser, n'est-ce pas, à construire ce genre d'infrastructures. Mais un autre élément, Gérard Lungambo, cela revient également à la responsabilité d'eux-mêmes, les musiciens, parce que les musiciens aujourd'hui, la qualité même de leurs chansons laisse à désirer. Il y a plein d'obscénités. Le message n'est pas assez, je dirais, éducatif. Et du coup, le public est renvoyé à consommer une musique qui les envoie poser des actes, je dirais, criminogènes. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui s'il y a un taux élevé de criminalité. Je vous dirais que d'une manière ou d'une autre, la musique fait également partie. Une personne qui, après avoir écouté des chansons obscènes, il prend la bière et il passe en cours de route, il voit les produits aphrodisiaques. Mais Gérard Lungambo, imaginez-vous, à son retour, il ne pourra que commettre des actes criminogènes. Donc si aujourd'hui, on revoit les textes des non-musiciens, je crois que ça fera bonne affaire. Et donc aujourd'hui déjà, cette inscription va bien évidemment faire la promotion de la rumba congolaise, mais je crois que la responsabilité revient également.
Pensez-vous, Christian, que la population va vraiment s'approprier de ces projets? Parce que vous venez d'évoquer quelques inquiétudes hein, lorsque les opérateurs culturels, qui produisent d'ailleurs cette identité culturelle, cette rumba qui est notre richesse, eux-mêmes finalement se retrouvent parfois dans des situations difficiles de pouvoir produire une musique très saine.
Oui, ces questions justement, c'est ces questions que l'État également s'implique par des mesures, je dirais, beaucoup plus restrictives en termes justement de la qualité même du travail qu'abattent les musiciens. Ils font vraiment partie de notre quotidien, mais c'est cependant les œuvres qu'ils composent laissent à désirer. Ils sont à compter au bout des doigts ceux qui produisent la bonne musique. Vous avez par exemple Lokwa Kanza. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent dire, voilà, ils font recours à ça parce que il n'y a pas assez de moyens, parce que c'est ce que la population, les mélomanes désirent. Mais je vous dirais, c'est
bah alors là vous entrez dans un débat sur la sémantique, sur même les styles utilisés. Aujourd'hui, quand vous évoquez Lokwa Kanza, d'aucuns vous diront, les styles utilisés par Lokwa Kanza, c'est l'autre musique, ils appellent ça musique de recherche. C'est le même avec Jean Goubal, ce n'est pas de la rumba pure. Okay. Donc le débat est là. Mais il y a également cette question de la rumba qui a été exportée par des musiciens, notamment Fally Ipupa et les autres, ça s'appelle également les débats. Donc tout ça, nous prenons en compte, mais je retiens que vous avez parlé de la révision, de revoir la question des droits d'auteur et des droits voisins qui constituent des préalables, et aussi la révision des textes hein, pour voir réguler la vie des opérateurs culturels. Merci beaucoup. Alors Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, c'est le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution, Marie-Paul?
Oui, écoutez, monsieur le journaliste, la musique congolaise en général et la rumba en particulier, c'est l'une des ressources de la RDC. Et c'est un véritable soft power pour notre pays. Mais le comble, c'est que les gouvernants de la RDC n'étaient pas réellement ou n'étaient pas contre réellement de cette ressource, de cette une des ressources de la RDC. Alors, par voie des conséquences, cela constitue un manque à gagner parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui la musique congolaise est parmi les musiques les plus consommées au monde et les artistes congolais sont reçoivent toujours des ovations partout où ils vont et ça doit être réellement un soft power comme je venais de dire. Alors la campagne que madame la ministre vient de lancer c'est vraiment légal, c'est louable parce que elle va ressusciter justement dans les chefs de la population, dans les chefs des gouvernants, une prise en conscience pour que nos artistes, nos œuvres d'esprit soient réellement prises en compte dans tout ce que nous faisons dans la République. Et cela va faire même que les gens qui produisent ces œuvres de l'esprit puissent profiter de leurs œuvres. Mais qu'à cela ne tienne, il y a bien évidemment des préalables qu'il faut tenir compte. Et parmi les préalables, monsieur le journaliste, il faut noter que dans notre pays, il y a quand même ce souci-là des piratages des œuvres. On est en train de pirater, il y a des gens qui n'ont pas les cutus de pouvoir vendre les œuvres de l'esprit, mais ils les vendent en catimini parfois aux yeux de tout le monde. Il y a aussi cette absence des droits d'auteur. Les gens qui produisent les œuvres d'esprit ne reçoivent pas les droits d'auteur. Il y a aussi l'absence des subventions de l'État. L'État ne subventionne pas. Et vous avez peut-être nos artistes ont des sérieux problèmes parfois pour se déplacer. Il y a d'autres qui restent là-bas. Il faut qu'ils fassent, qu'ils commandent de l'argent pour sortir. C'est parmi aussi des défis. Il y a aussi le problème de l'éthique et d'anthologie dans nos musiques. Je pense que Christian est revenu là-dessus. Il y a des obscénités, il y a des bêtises qui sont chantées. Je pense que si on doit faire aussi l'observance de l'éthique et les musiques, en fait, c'est comme on définit de manière un peu élémentaire. La musique, c'est quoi? C'est l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. Mais nous ne sommes pas là pour attendre des insanités, attendre des bêtises, et tout ce qui se passe en chambre soit au rendez-vous dans des musiques. Je pense qu'on doit lutter contre cela. Et c'est ça le préalable. Aujourd'hui, la musique ou le rumba, c'est un des éléments qui peut aussi promouvoir l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent là-bas. Parce que nous tous, nous n'allons pas travailler au bureau, il y a des gens qui peuvent faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat en développant les talents musicaux. Cela va faire même que l'État aussi puisse dégainer une partie des problèmes de développement et une partie des problèmes de l'employabilité des jeunes à partir de la promotion justement de cette tranche ou de cette
merci beaucoup Marie-Paul.
Moi je soutiens cette idée, mais on doit aller au bout. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'État à son niveau va prendre ses responsabilités pour la promotion.
La population
et
également.
Eux-mêmes doivent se comporter aussi en responsable pour donner la responsabilité à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils produisent. Comme rumba, comme musique, et cela sera dans la consommation internationale, et la RDC va réellement créer le soft power à partir de sa rumba sur la
merci
scène
beaucoup.
Internationale.
Sur merci beaucoup, internationale. Merci beaucoup Marie-Paul. Alors on va prendre Amos avant de retrouver notre invité, Madame Katungu Foura, Catherine, ministre de la Culture et des Arts. Alors vous êtes avec nous Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs. Amos, vous êtes avec nous? Amos. Voilà, des petits soucis avec la ligne d'Amos. Alors, on revient à vous, Madame la Ministre. Vous avez suivi cette série des auditeurs. Quelle est votre réaction, Madame? Après avoir écouté la population qui soutient, d'une part, et d'autres quand même qui émettent quand même quelques inquiétudes.
Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse de voir que la question culturelle occupe pratiquement le monde et cela me donne le courage de poursuivre ce que j'ai déjà commencé. Et surtout, me donne l'envie de faire un partenariat avec les opérateurs culturels, mais aussi avec toutes les personnes qui aiment la musique. Pour M. Christian, il a émis des inquiétudes, c'est vrai. et c'est très fondé. Le secteur culturel a des petits soucis, et c'est les soucis par rapport au cadre légal. C'est vrai que nous avons une déclaration de la politique culturelle qui avait été adoptée, mais qui n'a pas été suffisamment vulgarisée. Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait la politique culturelle qui doit être votée au niveau du Parlement et qui doit constituer déjà la base pour la protection du secteur culturel. Et donc l'inquiétude de Christian est vraiment fondée. Seulement, nous ne pouvons pas attendre de poser de bons actes lorsque la loi prend du temps pour être promulguée. La procédure a commencé par rapport à la loi, par rapport à la protection des œuvres. Il y a des textes qui ont besoin d'être retravaillés, des textes qui ont besoin d'être encore une fois modifiés et complétés par rapport à leur contenu. Et il y a aussi des pratiques qui doivent être améliorées. Il y a des structures qui sont déjà mises en place et qui connaissent peut-être certains de petits problèmes, mais qui sont en train d'être réglés petit à petit, étant donné que dans le programme du gouvernement, la question vraiment de l'industrie culturelle, mais aussi de cette politique culturelle a été prioritaire, où nous devons d'abord définir notre politique, parce que le secteur a été longtemps encadré, abandonné aux besoins, relayé au dernier plan. Alors nous avons besoin de désenclaver le secteur et de le ramener à sa place d'attente. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, les infrastructures dont il est question sont déjà dans le projet, dans le plan, d'ailleurs dans le programme d'investissement, c'est parmi les priorités où nous devons avoir des studios de qualité pour la musique, pour le cinéma et pour beaucoup d'autres choses. Donc l'infrastructure, c'est déjà une des priorités par rapport à la promotion et au rayonnement même du secteur culturel. Il y a aussi la qualité des œuvres, c'est pourquoi je parlais du renforcement des capacités des opérateurs culturels, surtout des artistes et musiciens, où on est en train de revenir plusieurs fois sur les aspects de la déontologie, mais beaucoup plus sur la moralisation dont rêvait la rumba. La rumba, c'est pratiquement la morale. C'est la morale du bien-être, c'est la morale de l'élégance, c'est la morale d'une bonne éducation. Et c'est pourquoi on a dit que la rumba doit même être enseignée à l'école. Et aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons l'INA, l'Institut National des Arts, là où on a maintenant fait des partitions, des musiques qui étaient avant considérées comme tellement des musiques de griots. Aujourd'hui, c'est de la musique scientifique. Et donc, la rumba est en train d'évoluer. Et avec ce que l'INA est en train de faire, le renforcement des capacités des acteurs, je pense que nous allons peut-être, avec le temps et avec la volonté, non seulement de la politique, mais aussi la volonté de la population et des opérateurs culturels, parvenir à avoir cette qualité des œuvres. Donc, l'infrastructure et la qualité des œuvres, c'est déjà une préoccupation et on est en train d'y travailler en prenant en priorité la question de la politique culturelle qui constitue le socle, c'est-à-dire la base légale qui était encore un grand gap au niveau du ministère. Marie-Paul, lui, est venue avec des encouragements. Merci beaucoup pour l'espoir que vous donnez au ministère, parce que c'est notre ministère qui a quand même cette attribution de faire la promotion de la culture et de faire la protection et la préservation des œuvres. Et donc, lorsqu'il nous encourage, c'est quelque chose déjà qui nous donne beaucoup de force. Lorsqu'il reconnaît qu'il faut que la culture soit reconnue, la reconnaissance de la musique congolaise doit être notre préoccupation. Cela me dit vraiment que je peux compter sur la population et le gouvernement congolais et les chefs de l'État comptent sur déjà ces changements de mentalité, comptent sur cette identité qui doit être positive. Et donc, le préalable qu'il a parlé, c'est le préalable du souci de piraterie des œuvres. Ça, c'est vraiment un grand gap. Quand moi, j'ai pris la fonction, j'ai commencé par faire le tour au niveau de Kinshasa. Effectivement, c'est triste de voir qu'il y a la tricherie et qu'effectivement, les artistes ne sont pas suffisamment protégés. Mais on est en train de réfléchir toujours au niveau du gouvernement, mais aussi avec les opérateurs culturels, les stratégies pour mettre fin à cette pratique. Peut-être on ne peut pas vraiment l'éradiquer, mais on peut quand même essayer de régler cela en réfléchissant des actions congolaises, c'est-à-dire un outil congolais qui pourra essayer de ramener, de remettre les artistes à leur niveau. Et c'est un projet qui est déjà en train d'être mis en marche. Et l'État est en train de réfléchir aussi l'aspect de comment il doit subventionner les artistes. Mais la subvention que l'État est en train de penser, c'est ce système actuel de business, là où les Congolais doivent réfléchir projet, ils doivent réfléchir des actions à proposer au gouvernement, où le gouvernement retrouve son compte et l'artiste retrouve son compte. Donc c'est le système gagnant-gagnant. Et ça ne peut pas provenir seulement du fait qu'on doit continuer à pleurer. Il faut qu'on puisse venir avec des innovations, qu'on vienne avec des projets. Et ici, je suis contente quand Marie-Paul dit que nous devons tous réfléchir à la promotion de l'emploi, la création de l'emploi.
les artistes congolais ont vraiment du génie. Ils sont en train de créer chaque jour. On a besoin de les protéger, c'est vrai, avec le cadre légal, mais aussi on a besoin de développer un mécanisme de business où tout le monde va se retrouver, où les artistes ne seront pas seulement là-bas en train de demander, mais on doit d'abord le protéger par rapport à comment ils vont gagner leur vie, leurs droits d'auteur. Et donc, le travail, c'est le travail de nous tous au même moment. Le travail du gouvernement congolais, qui est un travail vraiment politique, mais aussi le travail maintenant d'appropriation, qui est le travail d'innovation et le travail d'amélioration de ce qui était déjà terni avant. Donc, pour aller, il a dit que pour aller au bout, la musique doit faire entrer l'argent. Et effectivement, lorsque notre secteur ne fait rien entrer, effectivement, nous ne pouvons pas avoir la place de la préséance. Parce qu'avant, la culture avait sa place parce que ça jouait d'abord les rôles politiques et les rôles sociaux. Mais aujourd'hui, c'est tellement terni que l'immoralité qui a pratiquement entouré notre secteur a fait que nous puissions être relayés au dernier rang. Et donc, il est grand temps que nous puissions, au travers de la campagne de la rumba, mais aussi au travers le souci de l'industrie culturelle, que nous puissions changer l'image, changer la donne et revenir à l'identité qui nous a été toujours reconnue, l'identité de la grandeur dans la musique.
Voilà, alors madame, on va revenir à vous, le temps d'écouter également des autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Amos. Amos, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous, j'y ai.
Alors, vous avez la parole. Quels sont, selon vous, les préalables pour la réussite de ces projets d'inscription de notre rumba, notre identité culturelle, voire même notre richesse au niveau du patrimoine immatériel universel de l'UNESCO ?
Vous savez, comme vous venez de le dire, moi je pense que je venais de suivre l'invité. Le problème réside toujours, comme je l'ai toujours dit, au niveau de la gouvernance. Je viens de suivre les propos de l'invité. C'est quand même intéressant à suivre. Et quelqu'un qui n'est pas congolais peut penser que demain ou après-demain, les choses vont évoluer positivement. Nous ne savons pas si tel sera le cas, mais moi je doute. Parce que si vous voyez comment les artistes sont traités dans d'autres pays. Je prends les pays comme la Tanzanie, où les films font entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics de Tanzanie. Je prends le Nigeria. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Nous avons toujours connu des dirigeants qui abandonnent les artistes à triste sort. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre musique, je parle plus particulièrement de la musique, est en train de faire déjà la honte, où on voit déjà dans ces nids, ça ne fait plus l'honneur, parce que les musiciens constatant que non seulement l'État ne les fait pas respecter, parce qu'on pirate souvent leurs œuvres, on vit aussi de nos dirigeants qui devaient les protéger, maintenant pour qu'ils aient des moyens, ils sont obligés de faire du n'importe quoi. Même ils ne respectent plus la morale, ça devient très grave. Bébé, peut-être les dirigeants les laissent ainsi parce que demain ou après-demain, on voit que ces artistes musiciens sont manipulés par certains dirigeants qui se mettent maintenant à chanter à la gloire de ces dirigeants-là, pourtant des dirigeants médiocres. C'est très grave, parce que tout simplement, ils ont laissé leurs activités soient clochardisées, ne sont pas considérées et les conséquences sont là. Moi, je pense bien que, comme l'invité venait de le dire, si du moins hier, on aurait des dirigeants responsables, on devait donner quand même... On devait tout faire pour que nos artistes se sentent aussi considérés dans la société et qu'ils contribuent peut-être à la mobilisation des recettes au niveau du pays, ce qui n'est pas le cas. Nous parlons des musiciens, nous voyons d'autres artistes qui font beaucoup de choses pour le pays, mais du fait qu'ils sont abandonnés à leur triste sort, voilà les conséquences aujourd'hui, et la musique est devenue clochardisée, beaucoup de gens n'ont plus même ce goût-là. De chanter, beaucoup de gens n'ont plus ce goût-là de faire beaucoup d'autres œuvres parce qu'ils comprennent qu'ils sont en face des dirigeants irresponsables qui ne voient que le minerai, qui ne voient que des financements qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, au niveau local, on peut encourager surtout ces initiatives et l'État peut avoir des moyens. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous.
Merci beaucoup, Amos. Alors, on va prendre Edmond. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Maître Edmond.
Bonjour, Maître Gère. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé.
Quelle est votre contribution, Maître Edmond?
Merci beaucoup. Je pense qu'à ce niveau du débat, Nous sommes en train de féliciter, d'apprécier ces projets, parce que ça sera de l'honneur de notre pays, et notamment de la culture congolaise. Moi, je pense que, à ce qui concerne les préalables, moi, je voulais en donner trois. Le premier préalable ou la première condition, moi, je pense que dans notre pays, vous savez, nous avons, la plupart de nos dirigeants sont caractérisés par les népotismes, par les favoritismes, qu'on soit, voilà pourquoi. Je pense que pour que cette opération aboutisse en bonne et due forme, il serait mieux qu'une commission ou une équipe indépendante, une équipe qui ne sera pas faciale, soit créée au niveau national par le ministère qui est chargé de la culture, afin que cette commission puisse identifier véritablement laquelle de la musique roma sera inscrite comme patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Et cela ne doit pas se faire seulement à Kinshasa, parce qu'on n'a pas dit qu'on doit apprendre la rumba de Kinshasa, et cela doit s'étendre dans toutes les provinces, c'est-à-dire que les 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa. Voilà, ça c'est la première condition, et cela va permettre qu'on puisse élarguer le favoritisme, parce que comme les autorités sont en train de piloter le projet, ils vont pouvoir recruter les siens, et voilà, et les autres ne vont pas se retrouver. Nous savons bien la moralité de nos frères, nos compatriotes congolais. En plus de cela, moi je pense que la rumba ou la musique constitue une œuvre d'esprit, une propriété intellectuelle d'une personne. Donc on ne peut pas se permettre de prendre, de décider, parce que c'est le gouvernement, il se décide, le gouvernement prend, il accorde ça à l'UNESCO, et l'UNESCO en fait un patrimoine mondial. Je pense que les personnes qui sont propriétaire de cette musique ou cette musique qui sera sélectionnée doit être quand même payée en termes de droits d'auteur, parce qu'il s'agit de leur création d'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné par le gouvernement, ce n'est pas une chose qui a été ramassée, c'est un travail d'esprit, c'est un travail de longue haleine qui a fait qu'aujourd'hui on puisse apprécier cette musique. Et en plus, moi je pense que, comme les autres qui m'ont précédé l'ont soutenu, c'est qu'elle soit également, le gouvernement congolais doit accompagner
voilà,
la musique
congolaise. Voilà, oui. Et Maître Edmond, nous vous gardons un peu en ligne, il est temps d'accueillir quand même l'artiste musicien Jean Goubal. Jean Goubal, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, la démarche aujourd'hui de pouvoir amener la rumba à se faire inscrire dans, disons, le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, comment vous, quel est le regard que vous avez, le regard d'artiste ?
Moi, j'ai un regard d'artiste doublé de philosophe. C'est-à-dire, la rumba, question d'intellectuels, les intellectuels se battent pour promouvoir la rumba, etc. Mais qu'est-ce que les musiciens, eux, en font? L'intellectuel réfléchit, l'intellectuel pense, etc., etc. Et le musicien, il stagne. Il est en train de stagner, la rumba n'évolue pas en termes de pensée rumba. L'intellectuel qui pense au rumba veut amener la rumba à un niveau. On va parler de la rumba dans le monde. Et le musicien, lui, quel est son niveau de pensée par rapport à la rumba? La rumba ne bouge plus. La rumba, c'est resté un schéma d'harmonie en seul, ou deux maximum. Mais il faut que les musiciens aussi pensent au rumba. Si ce n'est qu'une histoire des intellectuels, ils vont pousser la rumba. Et on va se retrouver avec des musiciens qui ne comprennent même pas ce que les intellectuels disent à propos de la rumba. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, oui, je vous comprends bien, Jean Goubal. Donc la grande question aujourd'hui, mais quels sont les préalables pour qu'on réussisse à inscrire cette richesse sur le plan mondial?
Donc, il ne faut pas que les musiciens restent des enfants pour qui les intellectuels pensent une rumba réfléchie, une rumba qu'on pousse au niveau du monde de la réflexion. Il faut aussi qu'au niveau des musiciens qui sont les praticiens de la rumba, qu'ils réfléchissent pour donner à la rumba une valeur musicale. Il n'y a pas de valeur musicale dans la rumba. Il y a peut-être la valeur de la pensée des intellectuels dans la rumba, mais il n'y a pas de valeur musicale. Les musiciens ne savent pas penser la rumba en termes d'harmonie, d'enrichir les harmonies, etc., etc. Moi, personnellement, ça m'énerve quand les intellectuels parlent à la place des musiciens qui ne foutent rien, quoi.
Merci beaucoup Jean Goubal d'avoir appelé. Alors on va poursuivre avec et Maître Edmond, quel est l'élément que vous avez voulu ajouter? Merci beaucoup Jean Goubal.
Merci.
Oui, merci pour la parole. Moi je pense que en dehors des éléments que j'ai pu donner, notamment la création d'une commission indépendante, également le paiement des droits d'auteur, j'ai également évoqué les problèmes d'accompagnement. Parce que nous voyons, sous d'autres aspects, la culture est plus accompagnée par l'État. Voilà pourquoi, au niveau même de chaque pays, il y a un ministère de culture, arts. C'est justement pour ça. C'est-à-dire que pour accompagner les musiciens. Et voilà aujourd'hui que notre Rouma sera inscrit comme patrimoine mondial à l'UNESCO. Et nous devons quand même apprendre, accompagner ces musiciens qui vont faire quand même l'honneur de notre pays. Et ça sera quand même une bonne chose. Ça ne veut pas dire que l'État congolais va s'approprier la musique rumba et ça sera l'honneur de l'État, mais le musicien qui produise cette rumba ou cette musique ne sera pas quand même.
Oui, maître Dumont, vous êtes juriste. S'il faudrait réfléchir, parce que c'est la même question que je poserai à Madame la ministre tout à l'heure. Alors, avec la rumba, on était très avancé, on était vraiment en avance dans le passé par rapport à d'autres pays en Afrique, lorsque par exemple les icônes comme Manu Dibango, Youlou Mabiala et les autres Jeskin et les autres qui ont même composé les trios Majesi et sont venus ici à l'école de la rumba. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt les coupés décalés, c'est la musique des Ivoiriens qui prennent le dessus sur la rumba.
Oui, bon, moi je pense que ça dépend également de la façon dont nos musiciens fonctionnent, parce que je pense qu'on ne peut pas copier la musique ivoirienne, la musique américaine, française. Nous devons quand même garder notre identité, parce que la rumba congolaise constitue notre propre identité et ça fait l'honneur de notre pays. Quand vous allez ailleurs, on nous identifie par rapport à notre propre culture. Moi, je pense que le musicien, en dépit de quelques innovations, parce que la musique doit s'adapter, bien sûr, mais je pense que le musicien ne doit pas abandonner l'identité culturelle de notre pays. Je pense que c'est un peu ça, mais le gouvernement doit les accompagner des fois. Le musicien fait ça, c'est pour s'adapter à l'évolution, parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec l'Internet, tout le monde cherche à avoir les innovations. Et les musiciens congolais, les musiciens congolais essayent un peu de copier les autres. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ils sont abandonnés. Ils cherchent comment ils peuvent survivre, ils peuvent faire vivre leur musique. C'est ça.
Voilà, merci beaucoup Maître Edmond. On va poursuivre cette émission avec vous, Nathalie Lecollé. En attendant, Nathalie Lecollé, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'écouter notre invitée, Madame la ministre, Catherine Katungu-Fura, ministre de la Culture. Madame, vous venez de suivre cette deuxième série. Quelle est votre réaction?
Merci, je viens de suivre et je viens d'apprendre. Il y a beaucoup d'informations qui sont enrichissantes et je suis très heureuse. Merci pour les amis qui sont intervenus. Par rapport à Amon, cela fait introduire un autre aspect de choses, c'est l'aspect visuel des cinémas. Et il a pris l'exemple des pays de l'Est, et où il pense qu'ils ont évolué parce qu'il y a cet aspect de choses qui a pris vraiment de la place. Je pense que lorsque nous avons parlé du souci de mettre les infrastructures en possession des artistes, c'est cette question-là qui a été répondue. Donc le gouvernement est en train de penser les conditions, comment améliorer les conditions des artistes congolais qui doivent maintenant tout produire au Congo, pas aller toujours ailleurs, aller chercher des éléments propres ailleurs, alors que le Congo, lorsqu'il a des infrastructures, il peut aider les artistes à se retrouver et à éviter d'aller amener toujours les devises ailleurs, alors que ça pouvait toujours renforcer le caisse de l'État. Donc, c'est une préoccupation du gouvernement, et ça rejoint vraiment ce que Amont et les autres auditeurs sont en train d'apporter. Il y a aussi l'autre question, c'est le fait qu'il a dit que les artistes ne sont pas considérés et il faut que les artistes soient protégés. Ça, nous avons dit que c'est vraiment notre champ de bataille, la protection des artistes, protéger les œuvres des artistes. Et c'est pourquoi nous avons dit que notre priorité, à côté de cette priorité des infrastructures, c'est la politique culturelle. Dans la politique culturelle, nous devons réfléchir un contenu. Aujourd'hui, notre ministère, c'est culture, art et patrimoine. C'est la culture, l'art et le patrimoine, c'est-à-dire comment nous allons valoriser ce que nous avons de précieux. Et c'est notre culture.
lorsque nous l'avons d'abord inscrit au niveau national, c'est-à-dire la rumba est reconnue comme notre musique, notre identité, notre valeur, elle est inscrite au niveau national. Maintenant, pour aller au niveau international et avoir beaucoup plus de valeur et beaucoup de crédit et de reconnaissance, cette inscription apporte beaucoup de visibilité à notre pays et à nos artistes. Et ça entre dans la protection. Et je sais que avec ce mouvement et cette adhésion, nous allons recevoir beaucoup d'input et beaucoup de stratégies et ça va enrichir le plan qui est déjà sur table. Et donc, je remercie vraiment les amis qui réfléchissent pour la question culturelle. Edmond a dit que le préalable serait qu'on puisse déjà bannir le népotisme, le favoritisme, parce que les dirigeants congolais sont considérés comme les gens qui essaient beaucoup plus de promouvoir leur famille que de voir la compétence. J'ai aussi fait allusion à cela. À côté de cette campagne politique, de cette campagne de sensibilisation, il y a l'aspect des renforcements des capacités. Donc, on ne peut que recourir aux personnes compétentes et capables pour soutenir et pour diriger et gérer les infrastructures et les outils qui seront mis en place. Et il y en a même des outils qui existent, mais peut-être qu'ils ne sont pas utilisés comme il se doit, parce qu'il n'y a pas le professionnalisme et la capacitation des gens par rapport à l'accompagnement, à la gestion, mais aussi à la durabilité des actions et des projets de l'État. Donc c'est aussi une préoccupation et je voudrais garantir ici aux auditeurs, mais aussi aux artistes qui sont intervenus et aux mélomanes, en fait, les gens qui aiment la musique, qu'il y a lieu quand même d'espérer que les choses peuvent changer. Mmh. Nous sommes dans un gouvernement de warriors, ce sont des guerriers. Nous sommes venus avec l'objectif de changer l'image. Les dirigeants ont été beaucoup diabolisés, et c'est vrai. Il y en a de ceux qui ont fait ce qui ne pouvait pas vraiment être un prestige et un idéal. Mais aujourd'hui, nous avons l'obligation, par la conscience, parce que nous avons pris la conscience que les choses ne marchent pas. Et voilà. Chacun est appelé à apporter quelque chose pour que les changements soient palpables. Donc, nous vous invitons à la patience et nous sollicitons toujours vos avis et vos conseils pour nous permettre de ne pas ressembler à ceux-là qui ont englouti notre secteur. Voilà. Nous voulons ici revenir sur l'aspect des recrutements. Mmh. Donc, on ne peut recruter que des gens qui ont des capacités et on ne peut recruter que des gens qui peuvent apporter quelque chose. C'est pourquoi j'ai parlé d'un système gagnant-gagnant, d'un système de business. Et d'ailleurs, le doyen Jean Goubal venait de le dire même à la fin. Il dit comment est-ce que d'autres gens, des intellectuels, vont penser la question de la rumba, la question de la musique, lorsque les opérateurs eux-mêmes peut-être ne se mettent pas à réfléchir là-dessus. C'est vraiment l'appel à la conscience. Mm-hmm. C'est une conscientisation. Et moi, je soutiens ce que les grands Jean Goubal est en train de dire. Quand il parle de l'harmonie, quand il parle des gens qui essaient de parler à la place des autres, donc quelque part, il essaie de nous inviter, nous, les dirigeants, à approcher
les concernés, les artistes,
les opérateurs culturels, mm-hmm. mais aussi à conscientiser les opérateurs culturels à prendre cette opportunité pour contribuer et pour donner leur vision, leur façon, qu'est-ce qu'ils pensent faire de cette musique, de
voilà.
cette richesse.
Alors madame, si vous le permettez, on va conclure avec vous, le temps d'écouter les deux derniers auditeurs, et notamment, nous prenons un chroniqueur de musique, parce que là, on a eu la chance d'avoir un musicien qui a exprimé son souci, mais le chroniqueur qui reçoit quand même ces musiciens, hein, ces opérateurs culturels qui produisent à longueur de journée cette rumba. Alors là-t-il au collet? Vous êtes une figure quand même emblématique. Quel est votre point de vue par rapport à l'inscription de la rumba au niveau du patrimoine, disons, immatériel de l'UNESCO? Est-ce que vous pensez qu'il y a des défis à relever pour y arriver?
Merci pour l'invitation, JR, et merci aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je ne peux que saluer cela parce que la rumba, jusqu'à la preuve du contraire, c'est une identité qui nous est propre, donc c'est une identité congolaise. Mais du moins, quand on parle du patrimoine, jusqu'à la preuve du contraire, un patrimoine, je dirais, c'est une fortune, on laisse dire, et nous devons en être fiers et nous devons, nous contenter de cela. Et la grande question reste posée, est-ce que les pratiquants de la dite rumba bénéficient bien sûr de cette rumba. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes en train de pratiquer cette rumba-là. Est-ce que les pratiquants de cette rumba vivent de cette rumba? C'est ça la grande question, pour ne pas brûler les étapes. Moi, ça va peut-être vous faire rire, j'ai essayé d'échanger avec un musicien dont je ne citerai pas le nom, et qui s'est dit, mais patrimoine anglais la guissine, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons gagner là-dedans? C'est ça aussi qui tue nos musiciens de fois. Je vais lutter pour que notre rumba soit reconnu sur le plan mondial. Oui, c'est bien. Mais les pratiquants, comme je l'ai dit, si au-delà dit rumba, est-ce qu'ils bénéficient de cela? Parce qu'on en a marre. Moi, par exemple, il y a peu, j'ai reçu quand même une délégation des gens, des membres de la famille, pardon, de madame, comment elle s'appelle, celle qui venait de mourir, qui a été Maman Chaco. Je ne parle pas de la rumba, mais c'est quand même un cas de figure. Les membres de la famille qui venaient, je ne sais pas, pratiquement supplier les chefs de l'État pour que cette dame-là soit enterrée comme il se doit. J'ai donné ce cas de figure parce que c'est un cas récent. Mais du moins, il y a des gens qui meurent, les pratiquants de cette rumba. Vous savez comment est-ce que papa Lutumba était décédé et qui avait déboursé de l'argent. C'est honteux, moi, je vous dis honnêtement, c'est honteux. Aujourd'hui, il y a un monsieur que j'ai croisé en Europe il y a cela 2 ans qui m'a dit, écoutez, moi ça me fait très mal, les gens qui nous ont fait danser, et à chaque fois quand ils meurent, on fait, je dirais, c'est pas de l'aumône, on fait de la main tendue à des politiciens. Madame la ministre, je crois, depuis qu'elle est là, ça va faire une année, je crois que madame, elle fait partie du gouvernement de Warrior.
De Warrior, c'est à peine,
voilà,
quatre mois déjà.
Je crois qu'elle a intérêt. Je crois qu'elle a eu la main tendue de pas mal de gens. Il y a des gens qui ont fait...
Des artistes musiciens, des artistes peintres. Oui.
Voilà. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert de chercher déjà à mettre, je sais pas, notre rumba dans un piédestal donné? Mais du moins, mais ça ne nourrit pas son âme. Commençons par là. C'est pas pour les fatiguer, mais du moins c'est une bonne démarche. Mais commençons d'abord par nourrir les pratiquants de cette rumba. Et ces derniers, comment est-ce qu'ils vont défendre cette rumba au moment où... Je comprends pas, il y a des Ivoiriens qui ont commencé à copier la rumba, il y a des pidgins de la rumba, s'il faut le dire. Il y a des gens qui commencent à copier la rumba et ils commencent à vivre de cette rumba, je dirais copiée. Mais pendant que nous-mêmes, qui nous réclamons rumbistes, on se retrouve simplement parce qu'on est en train de brûler les étapes, je me dis.
Voilà, merci beaucoup Lati Lokolé. Alors on va prendre Simon Tsiloulou, juste un mot et puis on va conclure avec notre invité. Simon Tsiloulou, vous êtes à Matadi?
Oui, merci beaucoup.
On n'a plus assez de temps, vous aurez qu'une minute à placer juste un mot.
Le monde.
Oui.
En fait, le sujet, il est vraiment intéressant, surtout cette révolution, parce que il ne faut pas seulement voir qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous faisions déjà. Il faut encourager ce qu'on veut commencer maintenant. Vous savez, aujourd'hui, nous continuons à être plaintifs. Vous allez suivre les acteurs musiciens qui disent non. Notre rumba est en train d'être copié. Si les Nigériens, si les Kingales, si les gens de tel pays émergent, vous verrez, il y a du rumba là-bas. Le fondement, c'est le rumba. Le rumba, c'est comme un tissu où chacun fait coudre comme il voudrait. Alors, pour ne pas continuer à se plaindre, déjà la démarche entreprise par le ministère de la Culture, elle reste à saluer parce que il y a des choses qui n'existent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas eu le droit de ne pas exister, mais parce qu'on ne les a jamais commencés. Et lorsqu'on commence comme ça, moi je pense que nous tous, nous devons avoir maintenant une pensée orientée pour que cette démarche puisse réussir et que des mecs puissent apporter. Parce que lorsqu'on inscrit ça dans
le patrimoine
mondial, il y aura des divinales qui vont commencer.
Madame la ministre l'a dit en début. Voilà, on ne sera pas allé plus loin, Simon, parce que le temps nous fait défaut. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir contribué dans cette émission, Simon Tsiloulou. Madame la ministre, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
En deux phrases, qu'est-ce qu'on peut retenir? La campagne est lancée. Ça prendra combien de temps? Comment cela doit être fait? Et qu'est-ce qu'on attend de la population?
Oui, merci. Je remercie tout le monde, toutes les interventions. Et je suis vraiment reconnaissante par rapport aux inquiétudes, mais aussi par rapport à l'appropriation des uns des autres. Nous sensibilisons la population pour qu'ils puissent reconnaître que notre culture va traverser les frontières, notre culture prend sa place et notre culture est reconnue. C'est déjà quelque chose. Nous devons reconnaître que la coopération va essayer un peu de nous mettre ensemble avec les autres et va nous permettre d'avoir accès aux finances, parce que les échanges entre artistes vont faire assez que leur mouvement fasse entrer de l'argent et pour les artistes et pour le pays, et nous avons le devoir de préserver. Donc nous sommes jaloux de notre rumba, nous devons protéger notre rumba, c'est-à-dire nous devons faire en sorte que cette rumba puisse nous apporter quelque chose et que cette rumba soit vraiment conservée et respectée. et nous avons l'obligation de faire la promotion de la rumba, et c'est là pour perpétuer notre histoire et qu'elle soit enseignée et qu'elle soit reconnue comme telle. Je reconnais des défis qui ont été relevés, les défis du cadre légal, les défis des droits d'auteur, les défis de la pauvreté des artistes. Je pense que c'est ça notre objectif aujourd'hui, d'amener les artistes à ne plus être des commandeurs, mais de les amener à être des millionnaires. Et c'est avec les artistes que nous allons quitter cette situation pour améliorer la condition. Et je compte beaucoup sur les gens de médias pour mobiliser et sensibiliser les gens à croire au changement et à croire à la place et à la richesse de la culture. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Madame Catherine Katungu-Foura. Nous rappelons que vous êtes ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger avec les internautes ici au pays et à l'étranger. À très bientôt, madame. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On s'arrête par là et on prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs.